Radio Okapi.
Le M23 accusé des exécutions sommaires au Nord Kivu. C'est un rapport de Human Rights Watch qui le dit. L'ONG internationale de défense des droits de l'homme parle d'au moins 21 civils exécutés en février dernier. 1639 cas de choléra rapportés ainsi que 134 décès depuis les débuts de l'année jusqu'à la semaine dernière dans quelques zones de santé de la ville de Kisangani et dans quelques entités sanitaires de la province de la Tchopo. Révélation hier du chargé des opérations d'urgence à la division provinciale de la santé de la Tchopo. Jedi Diamabé, la directeur exécutif de l'Action pour la justice, le développement et les droits humains, est l'invité de ce journal à l'occasion du 25e anniversaire de la guerre de 6 jours qui aura lieu dans 2 jours. Cette ONG va organiser des activités pour commémorer cet événement tragique. Bonjour à tous, au micro Noéla Luzitu Kabambi. Dans un communiqué parvenu hier à Radio Okapi, l'ONG Human Rights Watch signale que les rebelles du 1-23 soutenus par le Rwanda ont exécuté sommairement au moins 21 civils et vraisemblablement un nombre beaucoup plus élevé à Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Selon cette organisation internationale, ce meurtre ont été commis entre le 22 et le 23 février dernier. Blaise Ndongala Mayanda.
L'ONG Human Rights Watch cite des témoins qui affirment avoir vu, le 22 février dernier, les rebelles du 23 arriver à différents endroits du quartier Kasika à Goma à bord de 3 véhicules pick-up. Selon cette organisation internationale, ces rebelles ont exécuté 7 personnes à l'ouest du camp militaire de Katindo et les corps des 11 autres personnes, dont un garçon, ont été retrouvés sur un chantier de construction près de ces mêmes camps militaires. Les mêmes sources rapportent 15 jours après, soit le 23 février, ces combattants ont rassemblé des personnes, notamment pour les recruter de force, et ont tué 3 personnes alors qu'ils tentaient de s'enfuir. Pour Human Rights Watch, les contrôles brutaux exercés par les M23 sur Goma a instauré un climat de peur parmi les personnes suspectées d'être alliées au gouvernement congolais. Entre février et mai dernier, Human Rights Watch dit avoir mené des entretiens par téléphone avec 22 personnes, dont des témoins de meurtre, des proches des victimes ainsi que des professionnels de santé.
Réagissant à ce rapport de Human Rights Watch, le porte-parole du gouvernement affirme que ceux qui occupent le Nord Kivu aujourd'hui font de la gouvernance par crime. Selon Patrick Muyaya, les rebelles sèment la terreur au sein de la population pour être craints. Patrick Muyaya Katembwe le dit au micro de Blaise Shindani Kambala.
Lorsque vous lisez le rapport d'Amnesty International sorti la semaine dernière, lorsque vous lisez le rapport de Human Rights Watch sorti aujourd'hui, vous vous rendez compte de la barbarie, de la terreur et de la gouvernance par crime. J'insiste sur le mot crime, parce que la volonté claire, c'est de s'aimer la terreur. La volonté claire, c'est de dire, plus on tue, mieux c'est. Parce que plus on tue, plus on sème la terreur, plus on est craint. Et c'est tellement paradoxal de voir les mêmes qui sont auteurs de ces crimes odieux, de ces massacres, vouloir se présenter comme des sauveurs. J'entends de bruits du genre Kinshasa punit les populations du Kivu parce que les secteurs bancaires n'est pas opérationnel. J'y avais répondu ici. Mais tenez-vous bien, quelle est la banque qui va par exemple accepter de travailler avec un mouvement qui est sous sanction américaine. Qu'on ne vous trompe pas, les leaders, ces supplétifs, n'ont pas le droit d'utiliser d'aucune manière les dollars américains.
En plus bref, le parti politique Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito salue l'approche adoptée par Martin Fayulu, président du parti, et décidé de rencontrer le chef de l'État pour des discussions directes afin de trouver une issue digne à la crise dans le pays. Aujourd'hui, nous saluons la position d'un de nos compatriotes, Martin Fayulu, de rallier la voix des nationalistes consistant à surpasser nos égos pour préserver le pays de l'occupation étrangère et surtout du projet machiavélique de nos ennemis, mentionne ainsi le secrétaire général du parti Nouvel Élan dans une déclaration publiée ce mercredi. Le parti de Mouzito invite ainsi le chef de l'État à ouvrir ses portes pour accueillir les compatriotes de tous bords qui veulent apporter leur soutien afin de sortir définitivement le pays de cette situation d'instabilité et mettre hors d'état de nuire ceux qui veulent jouer au pyromane. Dans la province du Maniema, le gouvernement provincial appelle la population de Kayuyu, chef-lieu du secteur de Wakabango 2, qui ont fui leur village suite aux affrontements entre les Wazalendo et la population, à regagner leur milieu respectif. Après le conseil de sécurité d'hier mardi, le ministre provincial de l'Intérieur parle d'une accalmie après le déploiement des forces de sécurité à Kayuyu. Entre-temps, l'Awamo Selemani Taylor demande aux Wazalendo qui sont dans la ville et même à l'intérieur de rentrer chacun dans son fief en attendant leur identification. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Il y a des troubles au niveau de Kayuyu, chef-lieu du secteur de Wakabango 2. Les Wazalendo se sont attaqués à la population, mais jusqu'ici, nous n'avons pas encore enregistré les pertes en vies humaines, mais on déplore les déplacements de la population et surtout la perturbation des examens hors session. Aussitôt saisi, l'autorité provinciale, à travers le conseil provincial de sécurité, avait décidé de pouvoir déployer une commission qui est déjà arrivée au niveau de Kayuyu et qui a déjà réussi à maintenir l'ordre public. C'est pourquoi nous invitons aux parents et à la population de pouvoir regagner leur parcelle et surtout les enfants qu'on les amène pour qu'ils passent leurs examens. Alors, la question des Wazalendo, comme on l'a toujours dit, c'est un casse-tête. C'est pourquoi nous demandons à tous les Wazalendo qui sont en train de défiler toute la journée avec couteau, machette et lance, en créant la psychose à la population, que chacun puisse regagner son fief en attendant la délégation mixte qui va venir pour les identifier, les regrouper et surtout les former pour qu'ils soient utiles aux côtés des FARDC.
La deuxième phase du projet Nashiriki, Kwamasikilizano, traduisait « Je participe à la réconciliation » et du projet de soutien à la médiation pour la résilience et la paix en Ituri et au Nord Kivu, a été officiellement lancée hier à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu. D'une durée de 10 mois, ces deux initiatives sont financées par l'Union européenne et visent à consolider la paix et à stabiliser les communautés touchées par les conflits. André Kitenge.
Ces projets ont été lancés par le gouverneur du Nord Kivu, le général Evariste Kakule Somo, en présence de plusieurs ambassadeurs européens accrédités en République démocratique du Congo. Ils seront mis en œuvre par un consortium d'organisations internationales et nationales, dont le Conseil norvégien pour les réfugiés, Seek for Common Ground et Ebouteli. Georges Wagnou, directeur du consortium pour la cohésion sociale, en précise les objectifs.
Le projet vise à contribuer aux efforts de consolidation et de la stabilisation de la paix dans les provinces de l'Ituri et au Nord Kivu par la promotion de la cohésion sociale pour les communautés affectées par les conflits.
Pour sa part, le gouverneur du Nord Kivu, le général Evariste Kakule Somo, a lancé un appel aux ambassadeurs européens présents afin qu'ils s'impliquent davantage pour le retour de la paix en RDC.
Plaider pour la fin de la guerre et le retour de la paix. Appliquer dans sa totalité la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies avec coercition, car son application est attendue impatiemment par la population.
Financé à plus d'un million et demi d'euros par l'Union européenne, ce projet vise à renforcer les liens entre autorités et communautés et à encourager des solutions durables dans les zones en conflit. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
1639 cas de choléra ont été rapportés avec 134 décès depuis le début de l'année jusqu'à la semaine dernière dans quelques zones de santé de la ville de Kisangani et dans quelques entités sanitaires de la province de la Tchopo. Révélation faite par Dr. Frank Mebois hier au cours d'un briefing à la presse locale. Quelles dispositions faut-il prendre au cas où une personne serait affectée? Dr. Frank Mebois, chargé des opérations d'urgence à la division provinciale de la santé de la Tchopo, explique. Il est au micro de Jacques Moukou.
Il y a deux dispositions. La première, c'est ça dépend du niveau de désertation, comme on dit. S'il est au plan A, en fonction du niveau de désertation, il peut juste prendre le SO, le sérum oral, le sérum de réhydratation orale. Ça peut se faire soit au niveau des centres de santé qu'il a notifié, soit on les transfère au niveau des centres beaucoup plus spécialisés qu'on appelle les centres de traitement des cas de choléra, CTC. Donc ça se trouve pour la ville ici, ça se trouve au niveau de Makiso Kisangani. Là, on peut prendre en charge tous les plans. Mais si on n'est pas à mesure de prendre ces produits-là. Là, il faut perfuser et donc il faut s'amener au niveau des centres de traitement des épidémies et là, on va prendre efficacement.
Quelle est la contribution de l'UNICEF qui s'en gagne dans la lutte contre le choléra?
Actuellement, l'UNICEF prend en charge de manière holistique. D'abord, les cas au niveau des centres de traitement des épidémies, mais aussi avec des actions communautaires, sensibilisation, surveillance à base communautaire, désinfection, décontamination. Tout ça sera pris en charge.
Santé Et encore, en Ituri, plus de 20 000 enfants de 6 mois à 15 ans, dont des déplacés, sont vaccinés contre la rougeole dans la zone de santé de Drodro, dans le territoire de Djougou. C'était au cours d'une campagne de vaccination contre cette maladie qui s'est clôturée le lundi dans la zone. Cette activité a été organisée par la Direction provinciale de la santé avec l'appui de l'ONG internationale Médecins sans frontières dans le but de contenir la rougeole déjà déclarée dans plusieurs entités locales. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
Au total, 9 sites de vaccination contre la rougeole ont été installés dans différentes localités dans la zone de santé des Drodro dans le territoire des Djougou. Le premier a été placé dans le camp des déplacés des Ro qui compte en moyenne 70 000 personnes, à majorité des femmes et des enfants. Dans ces sites, une dizaine d'enfants ont été testés positifs de la rougeole. D'autres cas suspects sont déclarés dans la communauté où de nombreux habitants vivent dans des conditions difficiles. Cette campagne s'est déroulée dans les entités des Blukwa Eta, Blukwambi, Mazé et Jissa pour juguler cette maladie qui se manifeste entre autres par l'éruption cutanée, le rugissement des yeux ainsi que l'écoulement nasal. Au total, 20 300 enfants ont reçu ces vaccins pour prévenir cette maladie contre 18 000 attendus au départ. Cette augmentation est due à l'afflux de déplacés dans les sites et dans la communauté où s'observe une forte promiscuité, indique Zeilembou, infirmier titulaire du centre de santé de Blukwa Eta. Cette campagne s'est déroulée grâce à l'appui logistique de l'ONG Médecins sans frontières dans la zone de santé de Drodro qui compte environ 205 000 habitants. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Les femmes élues conseillères communales appellent le gouvernement congolais à financer la CENI pour l'organisation des élections des bourgmestres et de leurs adjoints ainsi que des maires des villes pour le bon fonctionnement des administrations locales. Elles ont lancé cet appel après la rencontre hier à Kinshasa avec Joséphine Galula, membre de la plénière de la CENI qui a représenté le président de la centrale électorale. Selon ces femmes, l'absence de ces scrutins engendre une confusion institutionnelle. Madame Antoinette Lokomba, présidente du conseil d'administration des femmes élues conseillères communales, est dans ses propos recueillis par Grâce Hamzati.
On était en train de suivre les couloirs, surtout les rapports de la CENI où nous avons, on ne sait pas si on peut dire mal compris, qu'ils ont clôturé le cycle électoral. On devrait échanger avec la bouche autorisée pour essayer un peu d'échanger avec nous au nom du président de la CENI où on a eu à comprendre parce que la CENI ne gère pas les moyens. C'est un problème de financement. Les cautions des candidats bourgmestres et bourgmestres adjoints étaient versées à la DGRAD. C'est que c'est l'une des structures du ministère des Finances dont nous avons compris que notre plaidoyer doit tourner maintenant au gouvernement parce que la CENI, c'est un organe technique. La CENI n'attend que des moyens. C'est aussi une occasion que nous demandons au gouvernement d'essayer de mettre les moyens à la disposition de la CENI pour que la CENI organise ses élections parce qu'au niveau de la base, on n'arrive pas à fonctionner correctement parce que nous avons deux organes, l'une issue des nominations et l'autre issue des élections. Il y a incompatibilité des tests, nous avons des incompréhensions, nous n'avons pas accès au contrôle ainsi qu'à d'autres prérogatives qui est liée au conseil communal.
Au Kassai oriental, la route Mbujimayi-Mbanga, longue de 280 km, sera construite en 4 bandes, 2 allées et 2 retours, et non plus en 2 bandes. Un avenant a été signé le mois dernier entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale pour l'élargissement de cette route. Information annoncée hier au gouverneur de province intérimaire par le coordonnateur de la cellule des infrastructures au ministère des Travaux publics et infrastructures. La modernisation de cette route rentre dans le cadre du pacte projet d'appui à la connectivité et au transport financé par la Banque mondiale. Billy Chibambe s'exprime au micro des journalistes accrédités au gouvernorat du Kassai oriental.
Le standard de la route a été amélioré sur instruction de son excellence, monsieur le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est mis d'accord avec le vice-président de la Banque mondiale pour que la route passe de 2 voies à 4 voies. Ce changement aussi qui a nécessité un temps pour bien préparer les études et que lorsque les choses commencent, puisse être exécuté à la grande satisfaction de la population et que cette route puisse contribuer au développement, au désenclavement, surtout de cette province qui est aussi bien agricole que minière. Toutes les dispositions sont prises pour que vous savez bien que la meilleure période pour l'exécution des travaux, c'est la saison sèche. On exploite pleinement cette saison sèche. 90% des moyens sont disponibles. Mais ce qui est sûr est que quand on va commencer, ce sera pour monter en puissance et que les travaux avancent sans s'arrêter.
Actualité internationale.
11 enfants sont morts hier dans un effondrement sur un site d'extraction de sable dans l'état de Kaduna, dans le nord du Nigeria. Les enfants âgés de 4 à 9 ans fréquentaient une école islamique informelle et extrayaient du sable pour fabriquer des briques en terre cuite. Une enquête a été ouverte pour déterminer si les enfants ont été employés comme ouvriers, ce qui constitue un travail des mineurs. Les écoles coraniques informelles appelées Al-Majiri sont courantes dans le nord, à majorité musulmane du Nigeria. Des enfants issus souvent des familles pauvres y sont envoyés pour apprendre le Coran. Souvent livrés à eux-mêmes, ils vivent dans des conditions précaires, mendient et effectuent des petits travaux pour survivre.
L'invité.
Le 25e anniversaire de la guerre de 6 jours, c'est dans 2 jours. À Kisangani, les associations de défense des droits de l'homme se préparent pour la commémoration de cet événement tragique. C'est le cas de l'AJDDH, Action pour la justice, le développement et les droits humains, qui compte organiser une série d'activités, notamment une messe de suffrage et des activités culturelles. Pour en savoir plus, nous recevons comme invité le directeur exécutif de l'AJDDH, Jedidia Mabela, s'entretient avec Jacques Moukonkolé.
Monsieur le directeur exécutif de l'AJDDH, bonjour.
Bonjour.
Dans quelques jours, la ville de Kisangani va commémorer le 25e anniversaire de la guerre de 6 jours. Quels souvenirs avez-vous de cet événement historique macabre?
Déjà, il faut dire que nos plaies ne sont pas encore guéries et elles sont toujours béantes parce que, évidemment, 25 ans après, la justice n'a toujours pas été rendue. Et je peux même dire que les âmes des victimes n'ont jamais reposé en paix.
Pourquoi dites-vous que la justice n'a jamais été rendue tant il y a cet arrêt de la Cour internationale de justice qui est en train d'être exécuté par l'Ouganda?
Quand je dis que la justice n'a jamais été rendue, c'est parce que, voilà, comme vous le savez, après cette guerre, il y a eu de plaidoyers qui ont été menés par beaucoup d'organisations sur le plan national et international. Et aussi, il y a eu cet arrêt rendu par la Cour internationale de justice qui a condamné l'Ouganda à verser 325 millions à l'État congolais. Ça, c'était un début de justice, même s'il faut le reconnaître. Cet arrêt n'a jamais été à la hauteur du préjudice subi par l'État congolais et plus particulièrement par la ville de Kisangani. Mais en dehors de ça, il n'y a plus jamais eu des condamnations contre le Rwanda, partie prenante et belligérante dans ces conflits, dans cette crise. C'est un sentiment de frustration, c'est un sentiment d'insatisfaction qui nous anime en ce moment.
L'exécution par l'Ouganda de l'arrêt de la Cour internationale de justice, ne voyez-vous pas que c'est déjà quand même un pas très important? Qu'auriez-vous souhaité de plus?
Il faut reconnaître que la justice telle que nous sommes en train de la demander est à exécuter à plusieurs paliers. Il y a le niveau réparation. Au niveau de la réparation, on peut dire que c'est un pas important, processus d'indemnisation de victimes, tel qu'il a été enclenché avec l'exécution de cet arrêt. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le volet qui est très important pour nous, c'est la poursuite des auteurs. Ces auteurs qui ont été impliqués dans des crimes graves, des crimes contre l'humanité, qui ont été perpétrés sur le sol congolais et à Kisangani, ces auteurs doivent être poursuivis, doivent être condamnés.
Mais qui doit condamner, qui doit plutôt poursuivre ces personnalités?
Exactement. Au regard de la complexité de ces conflits, de cette guerre qui implique des États étrangers, nous, en tout cas, nous penchons pour la création d'un tribunal international ou d'une cour ou d'une chambre mixte qui va juger tous les auteurs, tous les bourreaux et les condamnés. Mais nous insistons sur le rôle nocif joué par les Rwandais, qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été condamné pour ces crimes commis lors de la guerre des 6 jours.
Oui, mais le Rwanda n'a jamais été signataire de l'accord de Rome.
Et exactement, c'est parce que le Rwanda récuse et la compétence de la Cour internationale de justice qu'il est important pour nous. Nous plaidons pour la création d'un tribunal international sur les Congos. Comme ça, le Rwanda pourrait enfin répondre de ses actes perpétrés lors de la guerre des 6 jours, mais aussi de tout ce qui se passe maintenant, qui doit être documenté et rapporté et présenté à des juges.
Monsieur le directeur exécutif Jedidia Mabela, comment comptez-vous célébrer ce 25e anniversaire à Kisangani?
En tant qu'activiste, ça fait plusieurs années que nous sommes impliqués dans la commémoration de la guerre des 6 jours, notamment au niveau d'ailleurs de la Lucha. Ensuite, avec Ukumbush, nous avons eu à organiser plusieurs éditions. Et cette année ici, AJDDH se joint à Ukumbush. et il y a aussi CPN, il y a aussi Amnesty International qui exécute un vaste projet autour de la justice au Congo. Et donc avec ces quatre organisations, nous projetons des activités commémoratives du 25e anniversaire de la guerre de six jours. Tout va commencer les 5 juin, nous avons un culte en mémoire des victimes. Et la messe sera dite au niveau de la paroisse Maélé. À l'issue de cette messe-là, nous allons lire notre mémorandum pour lancer un plaidoyer national et international pour la justice sur la guerre de six jours.
Que faire à l'avenir pour éviter ce genre de drame?
Ce qu'il faut faire, c'est que l'État congolais doit construire une armée républicaine, et aussi nous devons tous, d'un commun accord, nous mettre d'accord sur le pacte républicain, la constitution, et éviter de recourir aux armes comme moyen d'expression politique ou comme même moyen pour accéder au pouvoir. Et donc on doit tous reconnaître que la guerre, elle est mauvaise, la guerre détruit le tissu social de notre nation, et que s'il faut compétir politiquement, il faut le faire selon les normes républicaines, il faut le faire à travers les élections.
Monsieur le directeur exécutif de la JDDH, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'est la fin de ce journal présenté par Noéla Luzitu Kabambi, un journal mis en onde par Mimi Kindou sous la coordination de Élisée Chikota et la supervision de Martin Sebou Jangwe. Merci de nous avoir suivis.